Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, nous commençons par le Maroc aujourd'hui avec ces chiffres de personnes qui sont contaminées par le coronavirus, de nouveaux cas porteurs de ce fameux virus qui nous aura fait tant souffrir à la fois au Maroc, au Maghreb et dans le monde. Et pourtant, même si la situation est sous contrôle au Maroc, on avoisine aujourd'hui les 9000 nouveaux cas environ par jour. Ce sont des estimations, même si on a des chiffres plus précis, mais il faut retenir en gros cette enveloppe de 8000, 9000 cas par jour, ce qui rappelle la nécessité de respecter les gestes barrières et de porter notamment le masque dans les lieux publics, également d'être très attentif lorsqu'on est malade, lorsque l'on a un doute, lorsqu'on a envie de se faire vacciner ou simplement tester, d'y aller, de ne pas hésiter à le faire tant les risques qui sont engendrés par cette pandémie sont importants tant d'un point de vue sanitaire, personnel que économique pour le Maroc. L'actualité politique en Tunisie, ce sont ces déclarations de Rached Ghannouchi qui étaient très attendues, puisque le leader de Ennahda, également le président du Parlement tunisien, est un acteur clé de la scène politique tunisienne. Alors, suite aux décisions qui ont été prises par le président tunisien, il appelle au dialogue, puisque celui-ci, selon lui, le dialogue n'existe pas avec le président Kais Saied et ses conseillers. Donc, il appelle au dialogue national, à la négociation, au dialogue, etc. Il se dit prêt à retourner devant les urnes s'il le faut. Maintenant, c'est vrai aussi que s'il ne se passe rien, il laisse entendre qu'il continuera le combat, en tout cas le combat politique, de façon pacifique, mais en tout cas qu'il n'entend pas céder à la situation telle qu'elle se trouve aujourd'hui. Il dit qu'il invitera le peuple tunisien à défendre sa démocratie. Voici la formule exacte qui fut la sienne. Alors, inviter le peuple tunisien à défendre sa démocratie, il n'en dit pas plus sur la façon dont il compte défendre la démocratie telle que lui, il l'entend. Mais en tout cas, ce sont des propos qui méritent d'être entendus et retenus. Une chose est certaine, c'est que ce soir, vendredi, il y aura une réunion d'urgence du conseil de la Choura de Ennahda qui fera le point sur la situation dans le pays. Alors la situation politique, mais aussi économique, avec cette information assez douloureuse pour les fonctionnaires tunisiens, puisqu'ils viennent d'apprendre que les salaires seront désormais versés avec une semaine de retard et cela durera jusqu'à la fin de l'année. Ce sont des sources au sein du ministère des Finances et de l'Économie qui ont révélé ces informations, puisque ce retard de versement va permettre, selon les fonctionnaires, d'aider le gouvernement à bien se ressaisir sur le plan financier. Donc une semaine de retard sur les salaires, c'est le prix à payer. C'est le geste de solidarité, va-t-on dire, des fonctionnaires avec l'État pour que celui-ci, économiquement, réussisse à s'en sortir au moins jusqu'à la fin de l'année 2021. Les autorités algériennes qui se battent sur le front du coronavirus, il faut faire face à une situation tout à fait préoccupante, puisque l'on a vu cette semaine dans la presse algérienne des images d'Algériens qui étaient étendus sur des brancards, oxygénés dans des couloirs d'hôpitaux, puisqu'il n'y avait plus de place pour les recevoir. Des efforts vont être faits pour l'acquisition de générateurs d'oxygène, également l'achat de 160 000 litres d'oxygène. Il faut aujourd'hui renforcer l'équipement médical dans les hôpitaux algériens, et puis également essayer de produire, d'acheter 2 500 000 doses par mois de vaccins, de telle façon à ce qu'une campagne de vaccination puisse être engagée de façon tout à fait massive, même si ça a commencé, mais en tout cas, véritablement s'adresser à l'ensemble de la population pour essayer de contenir la pandémie, si l'on s'en tient aux propos de Louisa Hanoun du Parti des Travailleurs. Elle dit que la situation est actuellement absolument épouvantable, et d'ailleurs dans ce mouvement qui est initié par les autorités algériennes pour faciliter l'accès au vaccin, il a été décidé que ceci désormais pourrait se faire vacciner en pharmacie. C'est le syndicat national des pharmaciens algériens qui vient de l'annoncer. Donc ainsi, les pharmacies algériennes vont participer à cet effort national pour aider la population et son État à lutter contre la Covid-19. La Libye et ce grincement de dents du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui s'inquiète à demi-mot de l'influence grandissante de la Turquie. Turquie qui, dit-il, a une influence considérable sur la route migratoire en mer Méditerranée, puisque c'était déjà le cas en mer Méditerranée orientale. Là, c'est le cas en mer Méditerranée centrale, au nord de la Libye, vers l'espace Schengen. Donc la Turquie qui est importante, qui est un acteur important dans la région et qui a des responsabilités, rappelle le chef de la diplomatie européenne, quant au flux de migrants. Sinon, concernant la Libye, a signalé la 444e brigade de combat qui répond du district militaire de Tripoli. Celle-ci est intervenue dans une enquête concernant un groupe qui voulait couper l'eau qui approvisionne la ville de Tripoli. La 444e brigade a pu intervenir à l'issue d'une enquête. Alors, à la fois, on peut se dire que c'est formidable et tant mieux pour les habitants de Tripoli. Ils ont de l'eau et leur source d'approvisionnement ne sera pas coupée maintenant. C'est vrai aussi que c'est une brigade de combat qui ne répond que d'elle-même, qui est aujourd'hui affiliée aux autorités de Tripoli. Mais c'est vrai que ce n'est pas un État unifié, unitaire libyen qui procède à ce genre d'opération. C'est pour ça qu'il y a tous ces rappels à la fin de l'ère des milices, la fin de l'ère des mercenaires et des forces étrangères, de telle façon à ce que l'on retrouve une Libye qui soit véritablement un État unifié, cohérent et qui mène ses propres opérations de police sans demander aide à quiconque. En Mauritanie, ce sont 13 millions de dollars qui ont été votés par le Parlement à Nouakchott pour favoriser l'enseignement des sciences et des technologies ainsi que de l'innovation. L'objectif est d'investir sur la jeunesse de telle façon à ce qu'il y ait des efforts qui soient financiers et qui viennent profiter à tous les étudiants, notamment ceux qui veulent travailler dans les filières techniques et scientifiques qui sont pourvoyeuses d'emplois pour l'avenir et puis aussi pour participer à la richesse et à l'apprentissage du pays. En Syrie, on peut également signaler ces tensions sur la ville de Dera. Souvenons-nous que cette ville de Dera a été le berceau du soulèvement de 2011 contre le régime. Il y a toujours des affrontements entre les forces gouvernementales syriennes et des factions de l'opposition. Ce sont des affrontements assez douloureux qui n'engagent pas des combats totaux. En tout cas, c'est de moindre importance que ce fut le cas dans les années 2012-13-14. Mais il n'en reste pas moins que la ville de Dera aujourd'hui cristallise nombre d'affrontements entre l'armée syrienne et les factions de l'opposition.
Asie majeure, mineure, dièse ou bémol, Asie mute.
Notre destination aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle la zone AFPA, que c'est un diminutif pour désigner la zone Afghanistan-Pakistan. Il y a eu ces arrivées aux États-Unis d'un premier groupe d'Afghans qui avaient travaillé avec les Américains durant la guerre. Ce sont des familles qui vont être finalement accueillies sur le territoire national américain, estimant qu'au regard du lien qui a existé entre ces familles afghanes et les Américains durant la guerre, qui les ont aider ces soldats américains, et eh bien aujourd'hui, si jamais les talibans prennent le pouvoir à Kaboul, ils ne seront pas en sécurité. L'Amérique a donc décidé d'accueillir ces premiers migrants qui donc vont intégrer les États-Unis d'Amérique. Alors qu'il y a toujours cette progression des talibans vers la capitale, aujourd'hui, nombre d'interrogations se posent sur l'impact en termes de réfugiés. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des centaines de milliers de civils qui fuient les combats, qui fuient l'avancée des talibans. On peut rappeler que l'Afghanistan est la deuxième source de réfugiés dans le monde. Le premier pays qui produit le plus de migrants dans le monde, c'est la Syrie, hélas. Mais le deuxième pays, c'est l'Afghanistan. Et l'Afghanistan, qui est en guerre depuis 1979, depuis l'intervention de l'Union soviétique d'autrefois, il y a toujours eu de nombreux migrants qui se sont essentiellement rendus au Pakistan. Pakistan, pays voisin, qui a toujours été très ouvert d'ailleurs à l'égard des migrants afghans. Plus de 2 millions d'Afghans aujourd'hui vivent toujours au Pakistan, ce qui veut dire qu'ils ne sont jamais rentrés à la maison, ils ne sont jamais rentrés chez eux et ils vivent toujours au Pakistan. Alors le Pakistan dit, à la limite, nous voulons bien accueillir des réfugiés, mais il faut que tout cela soit possible, que ce soit techniquement viable, que ce soit aussi financièrement possible pour le pays, puisque le Pakistan est un pays qui a quand même quelques difficultés économiques. Et puis aussi, il y a des inquiétudes en termes de sécurité, c'est-à-dire que parmi le flux de réfugiés, qu'il y ait des terroristes, notamment de Tehrik i Taliban Pakistan, le TTP, qui en fait est le mouvement qui est celui des talibans pakistanais. Est-ce que ceux-ci vont se fondre dans le flux des réfugiés pour réinfiltrer le Pakistan et y commettre des attentats, des assassinats? Ce sont des questions d'ordre sécuritaire qui se posent aujourd'hui au Pakistan, qui aujourd'hui s'attend à faire face à de forts mouvements de population. Alors même si sur les chiffres, on a des éléments et des données qui sont assez difficiles à vérifier, mais on est vraisemblablement sur plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines d'Afghans actuellement qui font mouvement pour fuir les combats qui se poursuivent entre les autorités de Kaboul et les combattants talibans afghans.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.